Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ma chère maman, tu m'as demandé d'enregistrer le sermon que j'ai fait devant papa et toi à la maison sur les fruits de la foi. Je te le redonne donc et j'en fais en même temps profiter les fidèles. Il y aura quelques développements qui seront plus pour eux que pour toi. Tout d'abord, il faut en introduction mettre dehors la conception moderniste de la foi, selon laquelle la foi vient de nous et elle est un acte personnel par lequel nous rejoignons Dieu, ce qui n'est pas tout à fait faux, mais eux disent que cela vient de notre propre fond, alors que la vérité catholique, c'est que la foi vient bien de nous, mais comme une réponse. Il faut ne pas oublier que depuis le péché originel, nous sommes comme des noyés dans une rivière, et que ce n'est pas simplement parce que nous ferions une démarche et que nous ne pouvons pas nous sortir tout seuls de la noyade. C'est Dieu qui vient nous tendre la main, et la foi est notre réponse à cette première démarche de Dieu par laquelle il vient nous chercher et surtout par laquelle il se fait reconnaître à nous comme notre sauveur. D'où le premier fruit de la foi, par elle, l'âme est unie à Dieu. Quand le noyé saisit la main qui le sort, il n'est pas nécessairement uni à son sauveur. Il a pour lui de la gratitude, mais pas nécessairement une union profonde. Mais lorsqu'on reconnaît dans le sauveur un ami, à ce moment-là, le simple fait de saisir la main, c'est en même temps saisir l'amitié. Eh bien, lorsque Dieu vient nous saisir pour nous sortir de la rivière, il se fait reconnaître comme ami. Par la foi, nous saisissons la main qu'il nous tend, mais beaucoup plus que cela, nous entrons dans son amitié. Deuxième fruit de la foi, elle commence en nous la vie éternelle, ou bien par elle, nous commençons déjà la vie éternelle. C'est la conséquence immédiate du premier fruit. Dieu nous fait connaître ce qui lui tient à cœur. Il nous parle de ce qu'il aime. Et lorsque nous arriverons au ciel, en entrant à la porte du ciel juste après le jugement, nous dirons à la Sainte Vierge, « Oh, mes très Sainte Vierge, je vous reconnais. Votre Fils m'a si souvent parlé de vous. » Et puis nous verrons le Saint-Esprit et nous lui dirons, « Ô très Saint-Esprit, oui, je vous connais aussi. Jésus-Christ m'a si souvent parlé de vous. Et vous, Dieu le Père, il a tant parlé de vous. Et vous, Jésus, je ne vous ai pas vu, mais je vous reconnais aussi. Je reconnais le son de votre voix. Je reconnais votre démarche d'amitié. » Nous le verrons avec ses plaies glorieuses qu'il a conservées, les plaies de la croix, mais qui désormais sont glorieuses, et nous lui dirons « Ah, voilà ces plaies sur lesquelles j'ai si souvent médité. Et pendant mes méditations, vous les présentiez à votre Père pour intercéder pour moi. » Et tu te rends bien compte, ma chère maman, que du simple fait que nous reconnaîtrons les habitants du ciel lorsque nous arriverons au ciel, cela veut dire que nous les connaissons déjà ici-bas. Et que nous vivons déjà un peu dans leur intimité, comme une famille que nous connaissons. Et oui, dès ici-bas, comme le dit saint Pierre, nous sommes des citoyens de la cité des cieux, étrangers sur notre pauvre terre. Et dire que nous, mes bien chers frères, nous nous attachons à cette terre, et c'est là un grave problème, parce que cela démontre, un manque de foi de notre part. Troisième fruit de la foi, c'est de diriger la vie présente. Et là, c'est très surprenant. Saint Thomas d'Aquin, qui d'habitude montre toute la puissance de l'intelligence humaine et de la raison, ici, il en montre au contraire les limites. Et il dit que, même en ce qui concerne les choses strictement humaines, la raison n'arriverait pas à diriger l'homme s'il n'y avait pas la foi. Mais bien sûr, ce n'est pas à ce niveau qu'il faut rester, puisque nous ne sommes pas seulement appelés à diriger la vie humaine, mais à mener notre vie comme un chemin vers le ciel. Et là, tu comprends bien, maman, que la seule lumière qui soit efficace pour éclairer notre route, c'est notre foi. Le juste vit de la foi. Et là, il faut faire deux remarques. La première, c'est que la foi, bien qu'elle soit une lumière très vive, laisse cependant notre esprit dans l'obscurité. Et c'est paradoxal, plus la foi est vive, plus nous voyons que la lumière de notre pauvre esprit humain est en réalité une lumière obscure, qui n'éclaire pas grand-chose. Ce fut le cas de sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui connut ce qu'on appelle une nuit de la foi dans les mois qui précédèrent sa mort. Mais c'est le cas de tout chrétien, au moins de tout chrétien qui cherche justement à se guider selon les lumières de la foi et non pas selon les lumières de la raison. Pour notre pauvre nature humaine, c'est un déchirement. Tu imagines quelqu'un qui a toujours suivi sa route en regardant le bas-côté, les panneaux indicateurs, etc., qui se trouve dans le brouillard et à qui on a enseigné à se guider avec la boussole sans rien voir. Il est nécessairement saisi d'une certaine panique. Malgré tout, comme il sait que cette boussole vient de Dieu quand il s'agit de la foi, il continue à avancer avec certitude, et il sait que la boussole, finalement, est plus certaine que ce qu'il pouvait voir de ses propres yeux. Eh bien, il va de même de la foi. La foi est au-dessus de notre raison humaine, comme la raison est au-dessus de nos sens. Et de même qu'un adolescent a dû faire taire ses habitudes de vie sensible pour entrer dans le monde des adultes qui est un monde de la raison, de même le chrétien doit faire taire ses inquiétudes humaines pour se guider avec la foi qui lui donne une plus grande certitude et une plus grande assurance. Et il est normal que plus on approche de la mort, plus le bon Dieu qui nous aime veut purifier notre foi, et plus, par conséquent, nous avons l'impression que le monde se dérobe sous nos pieds, alors que c'est exactement l'inverse. Nous sommes désormais assurés par la forte main de Dieu. La deuxième remarque que je voudrais faire, ma chère maman, ce n'est pas tellement pour toi que pour tous ceux qui m'écoutent. L'Écriture sainte nous dit que l'Antéchrist à la fin du monde pourrait tromper les élus eux-mêmes si Dieu n'y veillait pas. Et la Très Sainte Vierge, dans le message de la Salette, nous dit que l'Antéchrist semblera faire des miracles qui pourraient tromper même les élus. Plus la fin des temps approche, et plus la raison humaine montre ses limites. À la Salette, la Sainte Vierge dit que l'Antéchrist pourra même sembler ressusciter des morts pour faire croire qu'il est Dieu. Et beaucoup d'hommes seront tentés de croire qu'effectivement seul Dieu peut ressusciter des morts et que cet homme est par conséquent Dieu. Et c'est la foi qui nous dira non. Cet homme ne prêche pas le Christ, il ne prêche pas l'Évangile, il ne reconnaît pas Dieu le Père, par conséquent c'est un imposteur. Et les miracles que tu crois le voir faire son défaut miracle. Ne cherche pas à comprendre pourquoi. Et nous n'aurons pas, mes bien chers frères, à chercher à comprendre pourquoi, parce que sinon nous serons perdus. Est-ce que le mort ressuscité n'était pas vraiment mort? Auquel cas, évidemment, ce n'est pas difficile de le ressusciter. Est-ce qu'il n'est pas vraiment ressuscité et que ce n'est qu'une apparence? Est-ce qu'il s'agit d'un progrès de la science moderne avec un hologramme en trois dimensions? Si vous vous posez ces questions-là, mes bien chers frères, c'est que vous n'accordez pas assez de crédit à la foi et vous serez perdus. Ce fut le cas déjà de beaucoup de catholiques après le Concile Vatican II, et notamment quand ils virent le pape déraillé. Ils étaient habitués à suivre aveuglément le pape. Voici que le pape déraille. La foi leur montre que le pape déraille, mais ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ni comment. Alors s'ils commencent à chercher, ils sont perdus. Ils tombent dans le cédévacantisme, ils tombent dans le libéralisme, ils tombent dans l'inquiétude, dans le désespoir. Monseigneur Lefebvre nous disait, ces questions-là seront résolues plus tard. Les théologiens se pencheront sur ce problème plus tard. En attendant, nous, nous avons la foi, elle nous suffit pour savoir que nous ne pouvons pas suivre ce pape, qu'il soit pape ou pas, peu importe, nous ne pouvons pas le suivre parce que la foi est plus forte que lui. Mais bien, chers frères, cette obscurité de l'esprit humain sera développée en plus par le démon, et c'est la lumière de la foi qui vous permettra de tenir, rappelez-vous le bien. Le quatrième fruit de la foi, c'est la victoire sur les tentations. Parce que toute tentation, nous dit saint Thomas d'Aquin, vient soit du diable, soit du monde, soit de la chair. Le diable, tout d'abord, c'est par la foi que nous repoussons les suggestions du démon, car c'est par la foi que nous savons que Dieu est le maître de tout, et donc que nous lui devons obéissance à lui et non pas au démon. C'est très surprenant, saint Thomas dit que par la foi, nous ne respectons plus le démon et nous ne le craignons plus. Vous me direz, mais y a-t-il quelqu'un qui respecte le démon? Eh oui, hélas! Il est facile de lui accorder du crédit. Il est facile de le craindre. Il est facile de le croire puissant. Rien que de croire à la puissance du monde moderne, c'est déjà croire à la puissance du démon. Or, à la crèche, Jésus nous apprend qu'il ne tient pour rien la puissance du monde moderne. Il part à la conquête du monde, de façon merveilleuse, sans aucun moyen moderne. Ces moyens modernes sont une fausse puissance. Si les franciscains et les capucins ont fait tant de bien dans l'histoire de l'Église, ne serait-ce qu'à travers leurs tiers ordres, c'est parce qu'ils étaient fidèles à leur fondateur qui avait tout envoyé promener, toute richesse, tout bien matériel, pour ne prêcher que le Christ et le Christ crucifié. La foi nous montre que le Christ est vainqueur du démon, que par conséquent nous n'avons pas à craindre le démon et nous n'avons surtout pas à le respecter. Or, cette crainte, mes bien chers frères, c'est celle qui est à l'origine de tant de trahisons et de ralliements. Combien d'évêques ont cherché à amadouer les gouvernants qui s'opposaient au Christ au lieu de leur prêcher vigoureusement la foi en Jésus-Christ et en sa croix. Vatican II est l'achèvement de cette tentative ou cette tentation d'amadouer le monde moderne, d'en faire un ami pour éviter qu'il soit un ennemi. Le ralliement de tant de traditionalistes à la Rome moderne, que ce soit en 1988 après les sacres, ceux qu'on a appelés les ralliés, que ce soit hélas plus tard encore les fils et les disciples de Monseigneur Lefebvre, qui chaque jour se rallient un peu plus à l'Église moderne. Monseigneur Lefebvre avait bien raison de nous dire qu'il ne suffit pas d'avoir la foi, mais qu'il faut avoir l'esprit de foi, c'est-à-dire la foi qui guide toute la vie et qui nous montre que les choses d'ici-bas passe et que seul Dieu nous met en possession, seul le Christ nous met en possession des choses d'en haut. Deuxième victoire de la foi, c'est sur le monde. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Hic est victoria qui vincit mundum fides nostra. Notre victoire sur le monde, c'est notre foi. Saint Jean, dans sa première épître. Pourquoi ? Parce que saint Thomas nous dit qu'elle nous fait croire à la réalité d'une vie meilleure que la vie présente. Le monde est un danger pour nous parce qu'il nous séduit par ses biens et nous terrifie par ses adversités. Quant au bien, la foi nous fait croire à la réalité d'une vie meilleure que la vie présente, et donc elle nous séduit plus que les biens d'ici-bas. Quant aux adversités, la foi nous montre que nous n'avons pas à les redouter, et la foi surtout nous rappelle qu'il n'y a pas de plus grand malheur que perdre son âme, quel que soit les souffrances à endurer pour rester fidèle à Dieu. Enfin, la foi nous donne la victoire sur la chair, parce que la chair nous tente en nous entraînant vers les délectations passagères de la vie présente. Il ne s'agit pas seulement des choses du sixième commandement, mes bien chers frères, il s'agit de tout ce qui flatte notre chair, c'est-à-dire notre corps, et tout ce qui nous apporte le confort de la vie d'ici-bas. Or, la foi nous montre que ces délectations, si nous nous y attachons indûment, de façon illégitime, alors nous perdons les délices de l'éternité. La foi nous montre que ces délectations sont passagères face à l'éternité qui est éternelle. Alors, mes bien chers frères, je vous invite à une réflexion, voire même un examen de conscience. Tous les traditionalistes diront qu'ils ont la foi et qu'il n'est pas nécessaire de leur rappeler le devoir de croire. Mais beaucoup de traditionalistes, s'ils vivent avec la foi, ne vivent pas de la foi. Et pour voir si on vit de la foi, eh bien, il faut voir si la foi nous unit à Dieu, premier fruit, si elle fait commencer en nous la vie éternelle, et si nous aimons nous trouver en esprit dans la vie éternelle plus que dans la vie d'ici-bas, il faut voir si la foi dirige notre vie présente avec un esprit de foi vraiment vif, et il faut voir si la foi nous donne la victoire contre les tentations, parce que si nous sommes encore vaincus par les tentations, c'est que notre foi est vraiment bien faible. Ce sont des choses qu'il faut demander au bon enfant Jésus à la crèche. J'ai commencé en vous disant que la foi ne venait pas de nous, elle vient de Dieu, et que nous ne faisons que répondre à l'invitation de Dieu. Voilà pourquoi il faut avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de demander la foi, même lorsque nous croyons l'avoir. Parce que nous avons besoin de demander une foi vive, une foi qui nous éclaire, une foi qui nous porte au ciel, une foi qui nous fait vaincre les tentations. Notre-Dame, gardienne de la foi, priez pour nous.